On vous embarque.
Culture.
On y était.
Concert.
On y était.
Sortie.
On y était.
Spectacle.
On y était.
Festival.
On y était.
Pigouille Radio vous rencontre des événements du Marais.
Pigouille Radio vous rencontre des événements du Marais.
On vous embarque.
Il fallait bien un docteur en littérature française pour nous conter les origines de notre langue, le patois. Mais le patois, est-il vraiment une langue ou une douteuse façon de parler la langue française? Finalement, d'où vient le patois? Et qui le parle encore? Le patois, ou le poitevin saintongeais, est-il vraiment perdu? Le 1er décembre, au Mazo, l'association Mazart a organisé une conférence sur cette langue locale. Pour animer ce débat, nous avons pu compter sur le professionnalisme de Michel Gauthier, ce docteur en littérature française, promoteur de la langue régionale, le Parlange, vient de publier son dictionnaire de Vendée, sous-titré « À cœur ouvert ». Il est également le fondateur de l'association de la Soulaire, le conservatoire de la culture poitevine. On vous embarque au Mazo, revivre le patois par cette conférence si passionnante et riche en sens, un voyage à travers le temps et l'Europe. Une leçon d'histoire, de géographie et même de grammaire pour comprendre le patois, son évolution jusqu'à sa quasi-extinction.
Merci d'avoir répondu à l'annonce. On est heureux de vous avoir parmi nous. Michel Gauthier qui est là, donc... va vous faire la conférence. Alors, bon, je commence par vous dire que c'est à l'initiative de l'association Mazart que cette soirée est organisée. Michel Gauthier, qui est ici, était très enthousiaste pour revenir au Mazo parce qu'il était venu quand on avait fait notre spectacle au mois de mai. Michel Gauthier est, comme vous l'avez vu, un doctorat en littérature. Alors, il est fils de paysan, originaire de La Chaise-le-Vicomte. Ben évidemment, il a baigné dans le patois dans son enfance, mais il s'est rendu compte, c'est en allant à l'université, en faisant ses études, qu'il s'est rendu compte que le patois, c'était plus qu'un patois, en fait. Voilà, il y a une table qui est remplie de ses ouvrages. Il a fait énormément de recherches. Il est à l'origine d'une graphie normalisée du patois, donc, qui s'appelle la langue... Enfin, c'est la langue régionale poitevine-saintongeaise, en fait. Et puis il a écrit des tas de bouquins et il a passé beaucoup d'années de sa vie à faire des recherches sur les langues régionales, enfin sur notre langue régionale en particulier.
Ben merci Béret d'être venu. Biacop. Vous disiez Béret ou Biacop?
Béret.
Bon. Et moi je viens donc de la chaîne de Vicomte, mais j'anime une association qui s'appelle... La Soulaire, donc je suis un des créateurs, un des fondateurs, association qui adhère à l'Union pour la culture populaire en Poitou-Charentes et Vendée, qui a son siège à Parthenay, et qui date déjà d'un certain nombre d'années, puisqu'elle a été fondée en 1989. Parmi les orientations de cette union d'associations, il y a la langue régionale qui s'appelle Poitevin-Saintongeais. Hein, c'est l'appellation officielle du ministère des Cultures, le poitevin saintongeais, et qui couvre les départements de la Vendée, des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Charente maritime et des deux tiers de la Charente. Comment qu'on se fait que notre langue est considérée comme un patois alors que d'autres sont considérées comme des langues? Ben ça, c'est l'effet de l'histoire. Dans l'histoire, il y a des dominants et des dominés. Et qu'est-ce que c'est qu'un patois? Ben, c'est une langue qui n'a pas eu de chance. Et qu'est-ce que c'est qu'une langue? Ben, c'est un patois qui a réussi. Le nôtre n'a pas vraiment réussi. C'est lié à l'histoire, tout ça est très... En fait, c'est pas arbitraire, non. Mais disons que c'est conjoncturel, quoi. Notre patois, c'est pas une déformation du français. Notre patois a des origines comparables au français, mais il n'a pas fait le même usage des origines. Les mots ont eu une évolution phonétique particulière à notre langue. Et il y a des mots qui n'ont rien à voir avec le français. Comment dit-on « coq » en poitevin-saintongeais? Alors, tout à l'heure, on m'a dit le mot à condition de le faire passer par un dicton, parce qu'on semblait avoir oublié le mot. Moi, à la chaise du vicomte, je dirais un « jao ». Dans d'autres endroits, le disant un « ha » avec une expiration, ou un jo. Un arbre les jours et longtemps n'a pas du arbre. Bon, voilà un dicton qu'on trouve normalement, j'allais presque dire, de la Loire à la Gironde, qui vraiment est très emblématique à la fois de notre langue et de notre culture. Le poitevin s'allongeait, comme le français, comme l'italien, comme l'espagnol, c'est une langue romane, c'est-à-dire d'origine latine. Il y a des langues sur le territoire de français qui ne sont pas d'origine latine. Par exemple, ce qu'on appelle l'alsacien lorrain, moi je dirais plutôt le francique et l'alsacien. Le francique qui se parle dans la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, le francique qui de l'autre côté de la frontière est une des langues officielles du Luxembourg. Mais du côté français, ça serait presque un patois, vous voyez, considéré comme un patois. Alors de l'autre côté de la frontière, c'est une langue officielle, le francique. Le francique, c'est pas rien quand même, c'est la langue de Clovis. C'est de là que ça vient. Ben, francique, franc. Vous avez tout à fait au nord le flamand, qui est aussi une langue germanique. La région de Dunkerque. Probablement une langue antérieure au celtique, antérieure à l'Inde européen, même. Le basque. Une langue dont on ne sait pas vraiment l'origine. Et puis, alors, vous avez une langue celtique qui est le breton. Alors, on peut se poser la question de savoir comment qu'on se fait que parlons celte, les bretons entre eux. Parce que nous, on pourrait aussi parler celte. Nos ancêtres, c'était les Gaulois, certes. Mais comment on les appelait, les Gaulois d'ici ? Les Pictons. Et un peu plus au sud, on les appelait, du côté de Sainte, les Santons. Les Pictons et les Santons ont été romanisés. Les grands Bretons de Grande-Bretagne. Certains d'entre eux ont été chassés par les Anglos. Par les Angles et les Saxons, qui étaient des Germains, ils sont venus se réfugier en Petite-Bretagne, et ils ont receltisé l'Armorique, une partie de l'Armorique. Les Armoricains, donc, qui parlent breton. Alors que les Pictons, eux, ils n'ont pas été receltisés, et donc on a continué notre route vers la formation d'une langue. C'est déjà une différence entre le Nord et le Sud, entre l'œil et l'oc. Alors le superstrat, c'est quoi pour les langues, la langue de Clovis? Une langue germanique. C'est le mélange de ça qui va former les langues. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les Germains sont plus nombreux au nord qu'au sud, les Romains sont plus nombreux au sud qu'au nord, c'est tout ça qui va faire la différence entre les différentes langues de France. D'abord, grosse différence entre un bloc d'oc et un bloc d'oeil. Évidemment, l'occitan, comme on l'appelle, la langue d'oc, est un peu plus proche du latin que nous le sommes, nous. L'originalité du poitevin saintongeais, ça va être d'avoir beaucoup de mots et une grammaire qui se rapproche souvent du sud. L'originalité, c'est ça, par rapport aux autres langues d'oc. Comment dit-on « je » Je dis « il ». Je vois
Ivoué.
Moi je prononce très mal. Dans des endroits, ils vont dire che. Moi il dit tu.
Che.
Dis au moins che. Le pronom de la première personne, i, à partir du latin ego, et a donné je en français. Mais i n'a rien à voir avec je, bien sûr. Mais i a à voir avec l'occitan, ié, qui veut dire moi. Donc déjà là, pour un mot aussi indispensable à la langue que « je », on voit bien qu'il y a une communauté linguistique. « O » complément d'objet direct, parce qu'il y a deux « O ». Il y a un « O » sujet, mais il y a un « O » complément d'objet direct. « Yo voué chu ». Je le vois, ça. C'est-à-dire que notre « O », il traduit un « le » neutre. Mais en français, on a « le » au masculin, « il le voué lit ». Alors qu'en poitevin, on a une différence. On a le comme en français au masculin, mais on a o en neutre. Et ça, ce o, qui vient du latin hoc, qui veut dire ceci, cela, ah ben il y a la mojette, il y a les grolles aussi, la grolle, ça désigne pas seulement le corbeau, mais les corneilles, etc. Il y a une dame ici qui pourrait nous raconter une histoire de grolle. La soupe à la grolle.
La soupe à la grolle. Ma tante Louise était une bonne cuisinière. nouvel journal, il dit « Dis, tata, j'ai entendu dire que le rhin pubin qu'une soupe à la grolle. Ah oui, main drôle, on est bien vrai, mais il ne suffit pas, il faut d'autres choses. Il faut tout être une bonne cuisinière. » Comme dit. Alors, il va très qu'un temps, comment faut faire? Il te faut d'abord un vin feu de cheminat. Et puis te pendeur à la cormaillère le pot de soupe, à moitié rempli d'air. Et dedans, te mets une paume de chou, 10 belles patates, puis un bambou de viande qui sort de sa loupe. Bambou de viande de gorée qui sort de sa loupe. Un copieux de navet, et puis un brin de corail au gâteau pas. Une bonne choraille de graisse de gorée, d'eau sorde, d'eau poivre, vous fera un bain bouillant pour tremper une soupe. Ben, la grolle, qui est dit. Ah, la grolle, ah. Mais quand elle est pumaille et puis vidale, il bourre le jabot de mie de pain, puis la ficelle avec de raffia, puis la pose sur la beurrière de peau. Oh, on demande une heure et demie pour que la potaille s'ébatchote. Il coupe de pain assis dans la soupière, puis tout trempera avec le bouillon de peau. Il fera une bonne soupe. Puis le chou, les patates et puis le restant, tout mangera après la soupe. Mais tata, mais la grolle, mais qu'est-ce que t'en as fait? Ah, qui y est demandé? Ah, la grolle! Mais la grolle, mais tu la jettes au chat! Et puis tu fais le garçon, là, deux jours, tu ne veux même pas la manger.
Le mavet. En vieux Poitevin, on dirait le mavert. Vous prenez les chartes du XIIIe siècle, ce ne sera pas écrit le mavet, le mavert. La diphtongue qui vient du latin ellum, c'est en Poitevin air. Mais cette diphtongue va évoluer de deux façons. La première partie de la diphtongue va aboutir à i, ou alors la deuxième partie de la diphtongue a va tomber, ça va faire le mavet. Ça va évoluer vers le mavia ou le mavet. Eh bien, vous avez hérité d'un mot qui est le latin mansus, qui désigne en latin un établissement agricole. Et vous avez le même mot que les Occitans ont. Il y a énormément de ma dans le sud. Et ça remonte jusque chez vous. Ah, non, mais c'est évident que c'est mavellum en latin qui a donné maver. D'abord l'eau, comment que ça se dit en Poitevin?
Lève.
Et même vous avez un mot plus ancien qu'on trouve dans les chartes du XIIIe. Avant lève, il y avait le mot aigle. D'aigle, on a un mot qui vient de l'aigle.
Légaille,
bien sûr. Alors qu'on est passé à vin.
Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de la chanson, en fait. Donc c'est le plat national maraîchin, évidemment, le haricot blanc, qui était aussi nommé l'or blanc du marais, parce que c'était vraiment une source de richesse hein, pour les gens qui exploitaient la mogette dans le marais. Alors les paroles de cette chanson ont été trouvées dans un recueil de textes du docteur Louis Desmier. Donc il était un peu poète, il aimait bien parler patois, qui est issu de la famille qui fut manifestement à l'origine de la création de la commune du Mazon en 1889. Du reste, le père de Louis Desmier, Honoré, fut maire du Mazon de 1889 à 1896. Voilà pour le contexte de la chanson de la mangette.
La mangette, oh, elle est un plat de chez nous. Quand elle est dans nos assiettes, il nous réjouit Saint-Orjoux. Quand elle est dans nos assiettes, il nous réjouit Saint-Orjoux. Vive la mangette gaie, vive la mangette. Vive la mangette gaie, vive la mangette. Quand elle est venue avec Modaille, à ta biébé Victor tout. Et la maisonnaille sont rendus tout alentour. Le maître et la maisonnaille sont rendus tout alentour. Vive la mogette gaie, vive la mogette.
Vive parce que il y a eu une période où on mangeait de la mogette trois fois par jour. Moi, j'ai connu des gens qui, quand il n'y avait pas de mogette à table, c'est comme s'il n'y avait pas à manger. Donc ce légume vient d'Amérique du Sud. par l'Espagne ou l'Italie probablement. D'où son nom très méridional chez nous. Mon-ret est en effet comparable à l'occitan Mungeta, M-O-N-G-E-T-A. C'est un diminutif de monja, qui signifie en castillan non féminin de monre, moine, qui signifie d'abord une religieuse, et puis ensuite un haricot. Alors, le rapport n'est pas évident. Sauf que, alors les explications qu'on donne, c'est que la mojette était un légume des communautés. Et à ce compte, parmi nous, on était en pension. Ils n'en mangeaient peut-être pas deux fois par semaine, mais ils en mangeaient quand même très régulièrement. La vêture blanche ou les coiffes blanches des religieux, hein, couleur blanche des grains et de leur disposition régulière aussi dans la cosse, hein, comme une sorte de succession ou de procession. Hein. Voilà l'explication qui est donnée. Il y a même des dérivés comme mangeon, qui signifie une sorte de gros haricot. Puis vous avez la variante mojette et moujette, bien sûr. Pour une réparation qui ne se faisait pas, un trottoir qui ne se réparait pas, le manquant de mojette, il n'y a plus de mojette. Ça veut dire qu'il n'y a plus de ressources. Notre langue, son évolution ou sa disparition en certains cas, est liée évidemment à l'histoire. L'histoire, elle n'est pas faite avec ce qu'on appelle des frontières naturelles. Ça, frontières naturelles, c'est une invention de Lavis. Du point de vue culturel, ça n'existe pas, les frontières naturelles. D'un point de vue militaire, si on veut. D'un point de vue militaire, certes. Mais d'un point de vue culturel, on trouve le Basque au nord des Pyrénées et au sud des Pyrénées. Hein? Vous voyez que donc, la frontière naturelle, hein, c'est quelque chose de très aléatoire. Et en fait, c'est une vue militaire des choses. Pour la fondation, la création d'une langue, ben, il vaut mieux avoir une bonne armée qu'une mauvaise. Quoi. Pourquoi les élites algériennes parle-t-elle français aujourd'hui? Est-ce que c'est à cause de la pré-excellence de nos instituteurs, de nos professeurs de philosophie, de nos littérateurs? Ben, à un moment donné, il y a une armée colonisatrice qui était plus forte. Pourquoi parle-t-on d'ailleurs une langue romane? C'est parce que Jules César était plus fort que Vercingétorix. C'est souvent ce qui est oublié dans l'histoire. Et les langues, elles se créent avec une domination. Et donc, petit à petit, évidemment, vous comprenez que le Poitou, Saintonge, va rentrer dans la mouvance, hein, des rois de France, et que la langue qui progressivement va être parlée, c'est une langue, évidemment, la langue du roi. Il y a une écriture très ancienne. C'est pas parce qu'elle n'est pas connue qu'elle n'existe pas. Et donc, un tas de mots qui auraient pu être français, entre guillemets, avec l'Académie française et avec Vaugelas, avec le puritanisme ou le purisme du XVIIe siècle, hein, eh bien, sont partis. Un mot comme Arantel. Alors le mot zir n'y est pas. Bon, on fait zir. On fait zir. Zir vient du latin ira irae, la colère, le dégoût qu'on peut avoir de quelque chose. La tradition des Noëls poitevins, très ancien, 16e, 15e, 16e, 17e, va se poursuivre. Et l'abbé Gusteau, il va écrire des Noëls. Et notamment celui-ci.
Et de bon Dieu le veuille. C'est chaud rendu tout de peur mais c'est chaud rendu tout de peur mais peur le bisaï, peur la doraille, peur chauffaille, c'est drapien. Peur buffet sans fumeur tiraille de l'avant, c'est saillant.
Savoir que ces naos et Noël sont toujours chantés sur ce qu'on appelle des timbres. C'est-à-dire que les auteurs des textes, l'abbé Gusteau met en scène une algarade entre un collecteur d'impôts qui vient saisir la vache d'un pauvre maréchal qui n'a que ça pour vivre, il a une vache. Début du XXe siècle, on voyait encore des choses comme ça, mais il y a des gens qui m'ont raconté ça, des gens qui vivaient avec une vache. Qui faisait paître sur ce qu'on appelle la banquette. Alors on va écouter, ça va être dit par un membre de La Soulaire, Jacques Brault. Tout à l'heure c'était chanté par deux chanteuses de La Soulaire, La Roche-sur-Yon, une association que nous avons créée en 1982.
Lieu de Girouinour, d'orte V de pareil, Végita de Tchéjo, sans se faire briller, dans le petit corail de Foussaille de la Motte, prend de par le roi. Quelle vache calotte que l'achetit en tour d'au cabanet Georges. Il ne sait déjà plus ce coller qu'a coûté, ni plus ni moins. La vache athée est belle et bonne. On ne fait donc point donner que de détourne si Grégoire facile de ses pailles, de ses mains, pour empêcher de manger son pauvre gagne-pain. Le sergent fut battu, sa nuque fut peignée. L'avait en mille andrés, sa face est graffignaille. Mais le fut le plus fort, aidé de son record, qui saisissant d'abord la vache par les corps, lui faisit un licou digne de ses jarretaires. Ô dame, ô Vudici, que Grégoire en colère dit au graffinour, lui donnant mille noms. Va, va! T'es plus chétis sans fouet que les démons, volures de pauvres gens, d'Ozum le plus mâble, y est douné mille fouets, ma vache à tous les diables, il les faisait trembler, tant fort et renarquer. Jamais, pour l'enlever, n'en fait le moindre cas. Mais t'as, chétis coquin, te n'as jamais fait de même. Sans être demandé, au boutrait qu'on bêtait à ruiner les gens, te vins pour l'emmener. Va, Bélitre, vourin, te déremercier que t'es plus fort que moi, car sans tu, ta carcasse servirait dans les champs à chasser les ajas, yacherait ta chair un si petit morsia. Que le plus gros teindrait dans le bec d'Inosia.
Violent, sévère. Et ça va pas bien se passer du tout pour les langues régionales, la Révolution. C'est l'abbé Grégoire qui considère que pour que la nation existe, il faut une seule langue, pour tout le monde, point final. Donc il écrit un rapport à la Convention qui s'appelle « Rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois » d'universaliser l'usage de la langue française. Mais les moyens de sa politique, elles vont venir avec qui? Avec un ministre de l'éducation nationale que vous connaissez bien, qui s'appelle Jules Ferry. Avec les lois de 1881 sur l'école publique, laïque, obligatoire pour tout le monde, les instituteurs vont être formés pour extirper les patois et pour imposer le français dans des endroits où on ne parle pas forcément. Jules Ferry, dans un discours à l'Assemblée nationale le 28 juillet 1885, dit ceci. « Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai. Il faut dire ouvertement que les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. » Ça veut dire que les instituteurs vont être formés dans cette politique-là à extirper les patois comme langue de l'infériorité. Quelqu'un comme Jean Jaurès qui fait des discours et qui écrit des articles en 1911 pour dire que tous les petits Français de France pouvaient être bilingues, c'est-à-dire cultiver une langue locale, régionale, et en même temps une langue nationale commune à tout le monde. C'était faisable. Nous, quand je dis nous, les Poitevins Saint-Onger et d'autres langues d'oeil, on a été vraiment reconnus en 1999. Ça a mis longtemps. 1999, il y a eu un rapport de Bernard Sarkeldini, un grand linguiste, qui a conduit une commission, une sorte de comité, à la demande du ministre Jospin, en vue éventuellement de signer la Charte européenne des langues, qu'on n'a toujours pas signée d'ailleurs. Rocard avait un peu oublié sa jeunesse, il faut bien le dire. Il a écrit un bouquin, Rocard, quand même, contre le jacobinisme. Il a expliqué dans sa jeunesse que la France avait été colonisée. Quand nous l'avons rencontré, il avait complètement oublié ça. Il se remettait à avoir un discours très jacobin. Hein. Alors évidemment, les Occitans, les Bretons, les Basques sont un peu plus en avance que nous. Parce qu'il y a une mobilisation locale, évidemment. La mobilisation chez nous, elle est quand même... Il y a une association comme l'UPCP, comme même la CEFCO, qui existait encore avant, qui n'existe plus, mais qui a existé longtemps, qui défendait ça, quoi. Mais ça ne suffit pas. Il faudrait, actuellement, ce qui nous manque, c'est une action politique. S'il n'y a pas des élus, des conseillers régionaux, conscients de l'intérêt. Bon, alors il y a eu quelques cours d'ouvert. Moi, j'ai donné des cours au lycée d'Armandès-France. Il y a eu des cours à Fontenay, il y a eu des cours dans différents endroits. Mais il n'y a pas eu d'ouverture d'épreuve facultative au baccalauréat. Un des arguments, c'est de dire qu'il s'agit d'un patrimoine. Il s'agit d'un patrimoine, comme on dit à l'UNESCO, d'un patrimoine immatériel. Ça a été considéré comme disqualifiant, etc.
Exactement. Voilà.
Déjà, on saurait une chose simple, que la première langue littéraire sur le territoire de l'Hexagone, c'est pas le français, c'était la langue des troubadours, l'occitan.
Au-delà du patrimoine, je crois qu'il faudrait développer l'intérêt, les atouts d'une langue. Parce que, bon, moi j'ai appris le français à 5 ans, j'étais bilingue à 10 ans, patois français, et à 20 ans j'étais traducteur-interprète dans différentes langues. Et je considère que c'est le patois qui m'a aidé à faire ce parcours. Donc le patrimoine, forcément il faut en parler, mais le patrimoine on l'associe avec un musée. Là, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de notre cerveau, qui peut être servi par le patois, qui peut être servi par n'importe quelle langue. À partir du moment où vous êtes bilingue, vous avez un atout sur beaucoup de gens, hein, le fait de maîtriser plusieurs langues. Parce que c'est dans le cerveau que ça se passe. C'est pas seulement de savoir que ma grand-mère parlait patois, c'est de savoir que moi, je peux faire la gymnastique entre le patois, qui est ma langue première, ma langue maternelle première, le français qui est venu ensuite, et les autres langues qui sont venues ensuite.
Deux langues permettent facilement d'en apprendre une troisième.
Absolument.
Plus facilement. Voilà ce qu'on dit. Voilà ce que les pédagogues expliquent depuis longtemps. Et ce que Jean Jaurès connaissait, enfin, avait déjà apprécié en son temps. Un autre problème qui est souvent lancé, en disant voilà, mais c'est pas une langue, vous voyez bien, parce qu'ici on dit comme ça, et là-bas on dit que comme ceci. Donc c'est pas une langue.
Alfred Martin était un grand d'envie, donc que Jean-Yves a connu, alors il était marchand de poissons à Danville. Bon, et puis il a écrit, alors là, le texte qu'on va vous lire, c'est quand même des alexandrins avec des rimes et tout, en patois, hein. Attention, hein, c'est pas... Quand au pien de l'été, le soulaille d'Ométive et baffe tous les gens devant tous ces équias, n'invouez la pauvre terre petiaille et chétive. Trouésure, c'est guernon d'oad au vieux piochat. Il y avait un dépit l'intend au matin sans égaille. Au mi-temps de la rivière, les tierpais ballottant, les canets barbotant dans le baquet de Burnaille. Au travers de Borla, les sensis à l'ingent. Les pupures d'Urson, puis renvoyons le dupe, en écoutant les guernivelles s'épiraillant. Les mogettes lingots sont à pienne chalupe, et les mouinets smussant au fin d'eau crue de chaffa. En portant leur djambarge, les paysans s'en allant sur les bords d'eau foussée, porta le djambarjaï, les pailles de fourrage dépassant, puis traînant. Inajas battrelle, la pume et charognaille, Formineuil engourdi à la tête d'un vargne. Puis, à l'air de dire, sûrement en s'en foutant, peurné d'un mouvement pour faire la marionnaille. Étiez-vous galopé? Pourquoi vous pressez tant? Les basquettes baraillent, sautons, sautons, sans trêve, avec dos couettes raides comme dos manches de boguet. Un chat curvé descend, gaffié au fil de l'éve. Les mouches vattent, sa poing, l'y pendant nos gamètes, au féchant. Sur la rade, on entend la chaline, les mucets vesounant sur les pilots de fumard. Frappe, tire volin, qui si beurre voline, vin d'un nous rafraîchit quand on fait si grand chat.
Bravo. Et baf, stupéfié, où est souffle? Après, tous les gens devant tous les Fézéquiens, n'envoyez la pauvre terre peteillaille. Peteillaille, c'est-à-dire fendillée.
Cartelaille. Hein?
Et chétille. Et mauvais. Trois heures, Ségornant, Doha, Dovu, Kiocha. Bon, il y a Ségornant, par exemple. Évidemment, le danger de la graphie telle qu'elle est, pour quelqu'un qui ne connaît pas le patois, c'est de prononcer Ségornant. C'est pas un R, c'est E. C'est le verbe Ségornaille ou Ségornant. Alors, là, vous avez le groupe GR qui va se prononcer Gœur ou Greuf. Allez, on dépend de nos andrés. Il y a eu cette déformation d'écrire Berton, B-E-R. Ça a été comment votre nom?
B-E-R-T-O-N.
Et les gens disent Berton. Erreur. B-E-R-T-O-N, la plupart du temps, c'est prononcé Berton. Vous avez aussi des Berthomés. En fait, les Berthomés, ou les de Bortomaille. Notre parlant, les phonèmes, les sons de notre langue sont souvent tirés vers le français. Un poumaille, un poumaire. C'est pas un pommier, IER, un poumaire. C'est-à-dire le I est disparu. C'est-à-dire qu'il y a eu une évolution phonétique différente. Il y avait depuis longtemps, dans le matin, sans égaille. Alors, voilà là une écriture encore, égaille, c'est-à-dire que le L mouillé. En toute position, on va écrire deux L. Comme en catalan. Si on se mettait à enseigner le poitevin et à le restituer un peu, hein, ça ne serait pas égaille, ça serait égaille. Égaille, avec un L mouillé. Alors les mouénais, c'est intéressant, c'est, moi je dirais les mouénias ou les mouénaires. Les basquettes, c'est la basquette, c'est la bergeroise. Les boguets. Les boguets, ça se trouve, y compris dans le marais du Nord-Ouest. C'est l'appel concave. Et la chaline, qu'est-ce qu'on appelle la chaline?
L'orage.
Et on dit aussi, le temps est chalinou. Les mucets. Les moucherons.
Les moucherons.
On l'a vu. Leur volin. Le tourbillon. Tu m'avais dit qu'il y a quelqu'un qui pourrait raconter une histoire.
Alors, c'est Jean-Yves, faire un petit récit de road movie, qu'on dirait en anglais. Donc, il va nous raconter son histoire de sidecar, parce que tout le monde en demande.
Ma bourgeoise, elle s'appelle Mélanie. Et quand il nous avait mariés, sa mère m'avait dit, te verra. On est une boule de relais. Mesdames, ce qu'elle a ici, nous les pompés, nous les mecs qui tout dit. Bon, vous savez, mais ma foi, il t'a bien marié, il y avait une drôle, qui sent grand à eux, puis bon, la fois, t'es trop mal. Sauf ce matin, mais qui me levait, il y en est chus sur le plancher. Elle me dit, tends-tu, Pierre-Jean, si je tiens un sidecar pour aller nous promener. À cette heure que les drôles sont grands, plus besoin d'être énorme. Un sidecar, je vais venir avec vous, l'actuel. Hier, singe, et après, voilà un parigot qui est venu chez le voisin, il en avait un. Alors, le nous a expliqué. Vous avez comme une moto, puis on a une espèce de panneau sur le côté avec une troisième roue. Bon. Il dit, mais te rends compte, l'argent que va nous coûter pour aller nous promener, que tous les deux. Elle me dit, oui, mais bon, il y a ma bête au sous, les mosettes et chambelles, tu n'as jamais vendu autant de pibots cette année. Sans cabane des vaches, elles ont tout le temps fait doler. On l'a tout le temps eu dans le bocage, on ne l'a jamais manqué. Bon, il y a un truc que vous pouvez dire tout ce qu'il voudrait, on faudrait sans doute céder. Et puis, un petit matin, il faudra s'en aller à la fin de l'année, si je vous marche sans, je s'inquiète. Alors, il dit, ben oui, mais à la fin de l'année, il n'y en a pas, il y en a avec le cheval et le chien à bord, parce qu'après, il faudra ramener la bétoire. Alors, il va dire, il y a la paix. Il pensait qu'elle allait refuser. Pensez-vous, elle était d'accord. Alors, bon. Un bon matin, sitôt les vaches tiraillent, nous voulons partir à Fatné. C'est sur le marchand de Dorsiquette à moteur, la butée rue d'Ologe à Fatné. J'arrive à la bord, les portes de garage disent aux vaches, ils rentrent, on avait nos sitcars, tu veux là un gars qui se ramène. Le blanc qui nous explique, et puis il nous dit, mais fallait choisir le modèle. Mais il choisit le modèle, mais elle est choisie quand on n'y connaît rien. Mais ça veut t'y prendre, tu vois. Elle a commencé par faire installer Mélanie dans le panneau. Puis il a passé son sac à main. Puis il avait bu que son sac à main n'était pas trop bien. Ce qui voulait dire qu'on avait sans doute oublié 10 000 dedans. Alors, quand elle a été installée dans Chopana, et bien Choga, elle a fait que de la canne qui m'entend. Elle était aux anges. Alors, ça dit, marché quasiment fait. Il avait raison. Tout d'un coup, il regardait, elle ouvre le sac à main, elle commence à sortir des billets de 10 000. Ah, il n'est pas trop regardé parce qu'on m'a reporté au cœur. Et puis, tout d'un coup, quand elle avait les sous, elle me dit, allez-y. Mais elle ne m'a pas fait voir comment démarrer cet ancien. Alors, mais il croyait qu'on démarrait la même nivelle. Oui, non, le vin, le foin, un coup de pêche, une pédale, on se met un peu de temps. Et puis il s'en va. Il s'en va, mais. Et il m'a même pas fait voir. Alors il retourne, puis il me fait assir sur la selle, puis il me dit tournez la poignée, et c'est parti. Oui. Il dit mais il s'en va. Il était l'heure de rester une homme, mais bon, il avait les sous, alors de s'en compter. Et puis Mélanie qui me dit tourne dans la pougnaille, il nous a dit de tourner la pougnaille. Voilà ce qu'il fait. Oh, l'engin faisait un sang en l'air. Heureusement que les portes au garage étaient encore en tout bas. Mais oui. Mais après, à un moment, la béfule tourna pour prendre la route qui va chez nous. Il est tourné sans doute trop vite ou trop court, je ne sais pas trop. Mais la route de Pana, la main était sur le trottoir, en voyant le sac à main par-dessus bord. Oh. Puis Mélanie qui se met du chat. Mais arrête-t'en, ma sac à main qui est chaud. Mais arrête-t'en, t'en as de bonne terre, arrête-t'en, tu n'as même pas fait voir comment je l'ai fait pour arrêter de te saloperie. Et puis un jeu chez tout le temps, ma sac à main qui est chaud, puis les sous qui sont dedans. Les Saint-Jean, mais même, au dépend, restez tout bien. Et puis elle juge toujours, mais sors d'un frein, sors les freins, comme dit, mais sors les freins, on n'est pas les freins qui seraient les plutôt les fesses. Mais oui, la chaudrin, nous l'avait tout rendu à la chicane. Et on n'avait pas de rond-point à cette époque, mais bon, on l'avait un carrefour qui était dangereux. Mais il y avait vu qu'on l'avait rien. Il est coupé à travers champs et vite à tourner trop court pour pas envoyer Mélanie au-dessus d'Opana. Tout d'un coup, Il voit une espèce de poêle, il y a cache dessus, on se met à faire pouet-pouet. Ah, mais il était le pauvre virant même, il fait pouet-pouet. Eh oui, mais il arriva à la porte de l'île, une garouaille de canet qui remettait de l'autise. Oh. Il passe à travers la garouaille, il est borné presque tout. Alors après, il est chargé, ben oui, quand on n'aura plus de pétrole, on va s'arrêter. Bon, il a passé le maïsé sans trop de mort. On faisait un point de pointe, nous savons virer. Arrivé à la croix de maillé, il est encore coupé à travers champ pour me retrouver à la grande mer de goût. Il évite un carrefour de même. Ben oui, mais arrivé à Danville, il n'y avait pas singé, on était sous de la foire. Impossible de prendre la route qui va chez nous sans être dans un domaine. Sous de la foire, la domaine partout. Alors bon, il dit singé, il va filant dans la rivière. Seul moyen de l'arrêter de cette saloperie. Il va pêcher dans l'aile d'autre fois et puis il nous tirera à bain. Puis on l'a ramené demain pour nous aider. Mais Mélanie qui juchait, mais arrête d'en sort les femmes, tu vas nous foutre dans la rivière. Il dit trop tard, oyé. Puis en effet, il y avait un type de tiré. Nous avons aidé. Ben oui, mais voilà pas que le bouillon sorti de cette saloperie de l'air. Ah ben il dit non, allié, il reste, il veut plus remettre dessus. Il est pris Mélanie sous le bras, puis il dit, tu vois Mélanie, elle a retourné chez nous de nos pays. Mais on n'est pas toujours là de voir putain plus tard qu'on a le dard.
Avec son histoire, là on s'en lasse. Ouais. Les soirées jeux avec Mazart vont redémarrer. Donc ici, la prochaine soirée jeu sera le 17 janvier, un mercredi soir à 20h30. C'est le troisième mercredi de chaque mois. Les bistrots patois, on retrouve un petit peu la façon dont on a eu des interactions comme ça. Le prochain bistrot patois sera le 20 janvier. On est en train de préparer notre prochain spectacle, Icozon patois. Donc un spectacle qui aura lieu a priori le troisième week-end d'avril. Je passe la parole, ouais, Mylène. Alors,
sur Mazart, donc moi je suis secrétaire sur l'association Mazart.
Ouais.
On tient notre assemblée générale en janvier 2024. Assemblée générale qui décidera de la continuité de Mazart ou pas, puisque bon, on est trois au bureau et voilà, en fait, elle continuera si on est plusieurs à s'investir, à participer et à s'engager en fait sur du long terme. Peuvent participer à l'assemblée évidemment les adhérents. Donc si vous voulez adhérer maintenant, c'est maintenant qu'il faut le faire. Si vous voulez pouvoir voter, parce que vous pouvez venir, mais vous pourrez pas voter. Mais si Mazart après l'assemblée générale n'existe plus, les soirées jeux se feront pas ou plus ou pas sur Mazart, enfin le bistrot patois autrement, enfin voilà, donc juste une info. Mazart, oui, aimerait continuer à vivre, je pense, parce qu'on a encore des beaux projets. On a un concert, oui, normalement un concert de jazz chaque année qui ramenait du monde et qui était un concert de qualité. On a des conférences comme avec Monsieur Gauthier qui sont très intéressantes. Enfin, il y a pas mal de choses. On a des projets avec
des spectacles. Ah oui, ça foisonne d'idées.
Avec des spectacles en direction des familles aussi pour faire venir des plus jeunes. Mmh. C'est un petit village avec une association qui a fédéré beaucoup de monde et qui a eu de très belles actions. Donc, avec des gens qui se sont mobilisés. Donc voilà, ce serait sympa qu'elle puisse continuer avec d'autres personnes s'il le faut, mais qu'elle puisse continuer.
On a besoin d'étoffer notre conseil d'administration, en fait, parce qu'on tourne à trois et que il faut qu'on soit plus nombreux pour s'épauler quand même. Hein. Parce que à trois, c'est un peu juste. Voilà. Donc, venez nombreux à l'Assemblée Générale, on vous fera connaître la date.
Actuellement, s'il vous plaît, s'il n'y a pas une transmission par l'école, voyons les clercs. Actuellement, la transmission ne se fait plus guère dans les familles, parce que les pépés puis les mémés ne sont plus avec les rôles. Ils ne sont plus avec les failles ou le petit faille.
Là, j'ai choisi un livre de poésie. Et puis, je crois que je vais prendre quand même aussi celui-ci. Parce que déjà, moi, je connais Michel Gauthier depuis pas mal de temps. 153, origine, histoire des mots.
En Poitou-Charentes et Vendée.
Et celui-ci, c'est « Lève était si claire ». L'eau était si claire, en français.
Qu'est-ce qui nous intéresse dans ces livres-là?
Là, déjà, celui-ci, mais pour réapprendre un peu l'origine et puis tout ce que nous a déjà dit.
Ouais, ça, c'est des histoires, des anecdotes, pour rendre le livre lisible quoi, par tout le monde, en fait. Voilà. Mais il y a quand même l'origine des mots. Quoi.
Vous parlez très bien?
Non.
Pas toi.
Je le lis, je l'entends, mais je l'ai pourtant appris sur le tard. Moi. Je ne suis pas née dans une famille patoisante.
Qu'est-ce que vous appréciez dans cette langue?
Mais le patrimoine et puis l'histoire. Je viens déjà aux rencontres avec Françoise au bistrot patoisant. Je trouve que c'est sympa d'entendre parler ça.
J'en ai acheté un, oui, c'est Les Amours d'autrefois. Je n'ai pas fini parce que je lis plusieurs livres à la fois.
J'en ai déjà quelques-uns. Ce n'est pas la première fois que je viens écouter Michel Gauthier. Toujours aussi passionnant. Et puis en plus, je suis originaire de là où il est, donc on a un peu le même patois. Alors j'ai encore plus de plaisir. Ce plaisir d'entendre parler patois et de se dire que ce n'est pas une sous-langue. Quoi.
Vous le parlez et le comprenez?
Oui, les deux.
Depuis longtemps?
Ma mère parlait pas très bien le français, parlait surtout le patois. Donc, on faisait la culbute, le bilinguisme à la maison. Mon père disait, à la maison, vous parlez patois, à l'école, vous parlez français. Effectivement, de toute façon, à l'école, c'était les punitions si on ne parlait pas le français. Donc, c'était vraiment dur. Hein. Moi, je trouve qu'on était vraiment pris pour des sous-sous, même entre les enfants du bourg et les enfants du village. Aussi, il y avait cette différence-là. Mais même dans une petite commune, entre ceux qui étaient dans les villages et celles qui étaient dans le bourg. C'est pour ça que les bistrots bois de vin qu'ils ont commencé à faire au Mazo, là, j'y viens avec plaisir, je suis trop contente. Et je transmets à mes petits-enfants, hein. Je parle avec mes petits-enfants. Pour moi, c'est très important, vraiment. Parce que c'est une transmission, je veux pas que cette langue, elle devienne plus rien du tout. Quoi. Je veux qu'elle soit transmise, parce qu'il n'y a pas de raison. Quand on sait que c'est les rois qui ont imposé une langue et que nous, on n'a jamais été reconnus, comme le breton ou d'autres langues ont été reconnues parce que nous, on n'a pas eu un politique qui a été là à nous soutenir, on ne l'a pas. Ça ne tient à pas grand-chose quand même. C'est vrai, hein?
Ben oui, on est habitué quand même, on a baigné dedans tout petit, hein? Toujours enfant, entendu. Mon père a 99 ans dans quelques jours, hein? C'est moins gros patois qu'autrefois, mais maintenant, parce qu'avec les enfants, ils font attention un petit peu, mais quand même. Hein? Des grands-mères. Hein?
Maintenant, avec mes enfants, on parle encore patois, mais les petits-enfants, après.
C'est un peu plus difficile. Ouais. Transmettre ça aux petits-enfants, non?
Oui, mais on le fait pas. Quelques mots, mais bon.
Merci à l'association Mazart pour avoir organisé cette conférence et à celle de la Soulière et de Michel Gauthier pour avoir enrichi notre culture. C'est les fêtes de fin d'année, l'équipe dont vous embarque et moi-même vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année sur la radio du Marais Poitevin. On vous dit à l'année prochaine pour un nouvel épisode, on vous embarque toujours dans le Marais Poitevin.
On vous embarque,
on vous embarque.
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 Culture.
On y était.
Concert.
On y était.
Sortie.
On y était.
Spectacle.
On y était.
Festival.
On y était.
Pigouille Radio vous rencontre des événements du Marais.
Pigouille Radio vous rencontre des événements du Marais.
On vous embarque.